thérapie sportive et cancer, parlons-en, présenté par Julia. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de RLP Radio, Radio Libre en Périgord, avec Valérie Otokian qui va répondre aux questions sur la chronique radio thérapie sportive, parlons-en. Bonjour Valérie.
Bonjour Julia.
Je vais vous demander de vous présenter.
Oui, alors je m'appelle Valérie Otokian, j'ai 58 ans, je suis venue vers la Camisport pour une raison de santé, un cancer des poumons type 4, métastasique, donc avec métastase cérébrale. Et puis voilà, donc ça fait un moment que je viens aux séances et qui m'apportent énormément et qui ont changé beaucoup de choses en moi.
Et justement, comment êtes-vous arrivée à la Camille, Valérie ?
J'ai vu ça quand j'étais suivie à Bordeaux. J'ai vu une affiche, Camille Sport et Cancer, et ça m'a interpellée, donc j'ai pris une photo.
C'est dans une salle d'attente de Bordeaux.
Dans une salle d'attente. Et du coup, je me suis renseignée, mais vu que j'ai un tempérament un petit peu solitaire et pas très sociable, c'était quelque chose en groupe, donc j'ai eu du mal à me pousser à me renseigner, à me dire je vais essayer de voir un petit peu ce que c'est. Et de l'autre côté, ce qui me gênait un peu, c'était de me retrouver aussi avec des gens qui étaient malades comme moi, et j'avais pas spécialement envie de me retrouver qu'avec des gens malades. Donc ça, c'est aussi ça fait partie de l'acceptation de la maladie aussi. Et je me suis dit là-dessus, si je freine autant, c'est qu'il y a quelque chose à travailler aussi là-dessus.
Et donc vous avez quand même franchi le pas de venir à la Camille. Vous avez appelé, donc c'était mon collègue Goriane à l'époque.
Oui.
Et vous avez fait une séance d'essai déjà pour vous assurer que le groupe ne vous fasse pas peur, que vous réussissiez à vous intégrer, à vous sentir bien aussi.
Oui, mais disons que ce qui me plaît dans la Camille, c'est qu'on est plusieurs, parce que c'est pas des séances particulières, mais en fin de compte, chacun est en soi. Chacun travaille à l'intérieur de soi, et du coup, ça m'a pas gênée d'être en groupe.
Parce que durant la séance, vous étiez avec vous-même, vous étiez centré.
Exactement. Donc ça m'a appris simplement à essayer de m'auto-centrer, ça m'a appris à gérer un petit peu ce qu'on dit toujours, les patients, de gérer un petit peu la douleur, de prendre conscience de la respiration, qui est vraiment, comme vous dites pendant les séances, qui est vraiment motrice. Et ça, c'est quelque chose que... C'est un senti qui est... C'est indéniable, c'est comme ça. Et du coup, la posture aussi. J'avais énormément de problèmes jeunes, de problèmes de lombaire.
Problèmes de dos, problèmes posturaux.
Parce que mauvaise position, trop cambrée, donc ça décale les intestins, ça n'allait pas du tout. Et du coup, même en étant malade maintenant, je n'ai plus ces douleurs-là.
Oui, lié au travail postural, justement.
La
Camille, on travaille énormément la cinésiologie du mouvement, tout ce qui est posturodynamique. Mmh. Et la posture, c'est la base aussi pour éviter les maladies chroniques comme les douleurs lombales, les douleurs dorsales de manière générale apparaissent, et les problèmes orthopédiques également. Par le positionnement des talons,
L'ancrage au sol est hyper important, mais il est aussi pas simplement par le corps, il est aussi entre le corps et l'esprit. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est indissociable. Le corps, on ne peut pas le séparer de l'esprit.
Et vous avez réussi justement par la Camille à reconnaître que le corps était entièrement lié à l'esprit. Est-ce que si vous arriviez sur une séance fatiguée, il y avait un impact sur le corps en début de séance? Et est-ce que si en dynamisant le corps, vous avez ressenti que l'esprit allait mieux aussi, qu'il y avait un lien direct entre les deux sur les séances Camille, mais aussi en dehors?
Oui, bien sûr qu'il y a un impact... évident, parce que quelquefois, faut un petit peu se dire, allez, j'y vais. Quand on a des douleurs, on n'a pas envie de sortir, ou il fait froid, il y a toujours quelque chose qui nous dit, parce que le corps est très feignant, en fin de compte, et on n'a pas envie d'avoir encore mal. Je pense que le fait de se pousser un petit peu, de dire j'y vais sans trop avoir à réfléchir, en fin de compte, moi je sais que à chaque séance, même quand j'étais sous chimiothérapie, où vraiment on n'est vraiment pas bien à ce moment-là, tous les gens qui en ont eu le savent, même en sortant, j'étais beaucoup mieux après.
beaucoup prête, plus dynamique, moins de fatigue.
Ouverte à l'extérieur aussi, aux choses. Et puis simplement, ben, ça nous aide à ne pas nous laisser aller aussi, à reprendre confiance en soi. Parce que dans ces cas-là, on se sent comme un légume. Hein.
Vous sentiez affaibli au moment du début. Vous avez commencé la CAMI, vous étiez en chimiothérapie, Valérie. Oui. Est-ce que vous avez senti vraiment cette évolution en termes de masse musculaire? Est-ce que vous êtes senti plus tonique en termes de conscience du corps et d'équilibre proprioceptif également, de la proprioception plantaire?
Oui, l'équilibre. L'équilibre aussi, et ça c'est hyper important parce que ben, ça évite les chutes, ça évite... Et puis c'est pareil sur la confiance en soi, l'équilibre c'est très très important parce que c'est l'équilibre du corps, c'est l'équilibre aussi mental. Donc c'est apprendre vraiment à se positionner. Et moi ce qui m'a vraiment aidée, c'est pas simplement... Alors je vois pas ça comme un sport, pour moi c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que je n'ai pas un esprit sportif, je n'ai pas un esprit compétitif, sauf vis-à-vis de moi-même. Je suis très exigeante vis-à-vis de moi-même, mais ça m'a appris un certain ancrage à l'intérieur de moi-même. L'ancrage par le sol, l'ancrage par le mental, essayer de canaliser son esprit aussi, ses pensées. C'est une forme de presque d'auto-méditation, j'allais dire ça. Enfin, c'est le mot méditation un peu fort, mais je vois pas quel mot employer.
Je conseille souvent d'ailleurs aux patients en dehors de la CAMI de pratiquer la méditation, qui est tout à fait complémentaire à cette thérapie sportive. Vous l'avez très bien dit, c'est pas un sport, on est sur une thérapie. On va amener le patient à un mouvement, vers un mouvement qu'il peut pratiquer ou non en fonction des chirurgies qu'il a eues, pour finalement lui permettre de répondre à un objectif thérapeutique. Donc on amène le patient à un mouvement, on n'impose pas le mouvement, le patient s'il ne peut pas aller au bout du mouvement, c'est pas grave. Et ensuite, il y a vraiment tout ce processus de réappropriation du corps, de conscience, être dans l'instant présent, en écoutant la consigne, en essayant du mieux qu'on peut d'appliquer. Et cet ancrage va permettre justement au patient, pas d'oublier la pathologie, mais de, sur un instant T, être dans son corps, être attentif aux sensations, se raccrocher à son corps, se rattacher à son corps. Ça, vous en avez très bien parlé, par l'ancrage notamment. Donc vous avez vraiment observé des bénéfices de la CAMI physique. Est-ce que psychologiquement, ça vous a aidé également au creux de la vague, lors des traitements lourds, à avoir envie aussi de faire d'autres activités, comme de la marche en nature, par exemple? Vous m'en parliez tout à l'heure.
Ben ça, déjà, la marche, ben, j'habite en campagne, donc j'ai besoin de la nature, j'ai besoin de ça pour me ressourcer. Je suis artiste peintre aussi, donc le travail à l'atelier, ben, y a un lien aussi avec la nature, avec tout ça. C'est un besoin vital, c'est un besoin d'être, tout simplement, et je ne peux pas me construire en dehors de ça.
Donc c'est un bien-être au quotidien, c'est ce qui vous permet de vous sentir plutôt équilibré, plutôt stable et avancer au mieux avec la pathologie.
Oui, en tout cas j'essaie. J'essaie de, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que les mouvements que j'ai appris, que mon cerveau maintenant a bien assimilé, j'essaie de les appliquer au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, quand je m'habille, en fonction des fatigues, etc., ben, si je dois mettre mes chaussettes, par exemple, je ne m'appuie pas contre quelque chose. J'essaie de travailler sur mon équilibre.
Votre équilibre. Alors certains le font en se lavant les dents sur un pied. Il y a vraiment cet équilibre, l'équilibre qui est travaillé au quotidien.
Tout ce qu'on fait, quand je travaille un petit peu dans le jardin, ben, j'essaie de penser à mon dos, à ne pas travailler en force, travailler avec souplesse et en conscience, la conscience du moment, d'être là dans le moment présent. Et je pense que quand on travaille ça, on a peu de chances de se faire mal.
Et on a parlé de la conscience du corps, mais il y a aussi la compréhension du mouvement. En faisant un mouvement à la CAMI, on se rend compte qu'il y a un muscle qui est mobilisé sur un mouvement, donc il y a un but précis thérapeutique pour le patient. En prenant conscience de son corps, notamment en parlant d'anatomie au sein des séances et en habitant pleinement son corps anatomiquement parlant, en prenant conscience des muscles qui existent sur le corps, le patient va aussi mieux comprendre le corps et, en bougeant au quotidien, prendre conscience que tel ou tel muscle travaille sur une activité physique donnée. Je parle d'activité physique parce que ça peut être des activités domestiques également, comme faire les vitres. Mais aussi en se rendant compte que les muscles du bras travaillent, en se rendant compte qu'il faut se tenir droit, faire les vides, ça peut être une activité qui est très mal réalisée avec une mauvaise posture, mais en prenant conscience de la posture à avoir sur chaque activité domestique, on peut finalement se préserver et limiter l'apparition des pathologies. Est-ce que vous partagez cette idée ?
Oui, bien sûr, mais pour moi, c'est plus qu'une idée, c'est une façon de se sentir être et exister.
C'est une philosophie ?
C'est-à-dire qu'il faut, c'est une philosophie de vie pour moi, parce que c'est justement en décrochant, en oubliant qui on est, enfin c'est très abstrait, c'est très difficile à expliquer, c'est assez abstrait, c'est comme si on s'oubliait pour être le plus possible en soi. Et de sentir les choses justes. Quand on travaille, qu'on sent de l'intérieur, moi j'ai posé en tant que modèle pendant des années aussi, donc je pense que ça m'a aussi appris à prendre conscience de beaucoup de choses, parce que c'est tout un travail qui est interne, parce que c'est beaucoup plus difficile de ne pas bouger pendant un certain temps. C'est pas naturel pour le corps. Le cerveau, il y a tout un, voilà, un processus qui doit se mettre en place, parce que sinon c'est impossible de poser dans certaines positions pour les tenir, hein. Donc c'est vraiment un travail interne. Et à la Camille, justement, ce que j'ai aimé, c'est qu'on travaille beaucoup avec cette histoire de périnée. Et le périnée, on n'en parle pratiquement jamais.
Le périnée, personne ne sait ce que c'est. Beaucoup de personnes croient d'ailleurs que seulement les femmes ont un périnée, oui. Ce qui est faux, les hommes aussi. Et je le vois dans le cadre des cancers de la prostate, les hommes ont souvent peu conscience de leur périnée, alors que c'est un muscle essentiel à travailler pour limiter les fuites urinaires, suite notamment aux prostatectomies. Mais également dans le cadre du cancer du côlon, lorsqu'il y a eu une chirurgie, dans le cadre du cancer des ovaires, il y a eu une chirurgie, un retrait de la masse musculaire au niveau abdominal et souvent donc des fuites urinaires ou même des douleurs dans la zone périnéale qui nécessitent un travail. Et pour le travailler, il faut avoir conscience de ce périnée. D'ailleurs, tous les schémas sont faits à la Camille, les schémas du corps humain anatomique pour permettre aux patients de prendre connaissance du périnée et des muscles qui habitent le corps. Est-ce que pour vous, ce périnée, ça a été... facile de vous l'approprier, le périnée et tous les autres muscles du corps, justement ?
Je l'ai toujours ressenti sans savoir expliquer réellement ce que je ressentais. Mais pour moi, c'est une évidence que quand on contracte les abdominaux, automatiquement, on devrait...
contracter le périnée.
Contracter le périnée. On ne nous l'apprend pas, mais moi, je l'ai toujours ressenti en moi, enfin physiquement...
Sans pouvoir l'expliquer. Et ouais. C'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une méconnaissance du corps et du périnée de manière générale. Ça concerne beaucoup les femmes après les grossesses. On en parle beaucoup après la grossesse, mais c'est vraiment le seul moment dans la vie où on en parle réellement. Dans le sport de haut niveau, il est souvent négligé. D'ailleurs, beaucoup d'athlètes contractent les abdominaux, notamment avec les fameux crush très, très connus et très populaires qui permettent d'augmenter la masse musculaire abdominale, mais qui bousillent, qui saccagent le périnée parce que souvent, il n'y a pas de contraction tout simplement du périnée. Et les organes vitaux viennent pousser sur ce périnée et l'abîmer, l'affaiblir jusqu'à des fois, dans les cas les plus graves, avoir des fuites urinaires, des descentes d'organes. La fuite urinaire étant la phase juste avant la descente d'organes, même si bien sûr, quand on a une fuite urinaire, on n'a pas forcément de suite derrière la descente d'organes, c'est un risque. Donc il faut prendre conscience du périnée, le renforcer. Je le dis souvent sur les séances, j'en parle souvent, ce périnée, on va être amené à le travailler beaucoup plus au sol aussi. Voilà, ce périnée pour finalement prendre conscience du corps féminin aussi masculin. Voilà, les hommes ont un périnée, et on en parle vraiment nettement pas assez. Vous avez aussi, Valérie, participé finalement à de nombreux soins de support dans le cadre de la Ligue contre le cancer, notamment. Quels soins de support vous avez fait ? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté ? Ils sont différents de la Camille, il y a une approche différente avec des objectifs différents. Est-ce que vous pouvez nous en parler et approfondir un petit peu ces soins de support ?
Disons que moi, j'ai essayé presque tout, sauf le psychologue, parce que je n'en voyais pas la nécessité. Mais donc ça a été une découverte de la réflexologie plantaire. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. En fin de compte, on s'aperçoit que toutes ces médecines dites parallèles apportent, en plus des soins qu'on a, un bienfait. C'est superbe, quoi. Moi, je trouve qu'on devrait tous découvrir ça, parce que oui, les bénéfices sont là.
C'est, ouais. Et vous êtes sentie bien encadrée sur ces séances-là. Ça a été un soutien pour vous aussi psychologiquement.
Oui, et puis c'est le fait, c'est important dans le fait de dire, je vais voir telle personne pour me faire du bien. je vais dans ce sens-là. C'est sans contrainte, sans...
Il n'y a pas d'obligation, c'est votre choix,
non,
votre volonté.
Bien sûr, il n'y a absolument aucune obligation. Et moi, j'avais justement besoin d'être en accord, d'essayer de recoller un petit peu tout ce que j'avais cassé entre le corps et l'esprit. Et pour moi, ça a été des modèles un petit peu...
Qui vous ont été bénéfiques. Ouais. Qu'est-ce que la réflexologie, d'ailleurs, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous le décrire assez simplement pour les auditeurs qui nous écoutent?
En médecine chinoise, le pied et tout le dessous de la voûte plantaire, enfin, jusqu'à la cheville et une partie du haut du mollet, en fin de compte, correspond à chaque endroit du corps. Chaque partie correspond à tout notre corps, et en fin de compte, quand on travaille avec, je dis on travaille parce que quand on est patient, on travaille aussi avec le praticien.
Oui, on est impliqué dans le processus de soins.
On est impliqué, donc automatiquement, il y a quelque chose, il y a une énergie qui se passe, il y a toujours ces transports d'énergie qui sont pas visuels, on les voit pas, mais qui sont là. Et c'est très important pour ressentir les choses et qu'il y a quelque chose qui passe, quoi.
De toute façon, quand il y a une mobilisation, vous devez sentir quand il y a des gènes, des douleurs, et vous donner des indices aussi aux réflexologues pour avancer.
Oui, de toute façon, le corps parle aussi. Pour donner un petit exemple précis, j'avais à un moment donné, par rapport aux soins que j'avais, beaucoup de problèmes d'intestin. Et je me levais le matin, j'avais hyper mal au ventre, j'arrivais pas à me tenir droite. Je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Donc je suis allée voir des diététiciens, je suis allée voir beaucoup de gens pour m'aider comme ça. Et la réflexologue m'a dit, on va travailler sur les intestins. Et effectivement, elle a appuyé sur les zones. On n'en est pas venu de suite. Elle a détendu avant, essayé de travailler sur l'anxiété parce que j'étais super anxieuse. Donc ça marche aussi très bien sur le stress aussi.
Ah oui, ça vous a aidé à diminuer le stress aussi.
Ah oui, c'est énorme, ouais. Et du coup, quand tu as travaillé sur les endroits qui correspondent aux intestins, mes boyaux ont fait un bruit. J'ai jamais entendu un bruit pareil.
Il y a eu une réaction du corps.
Oui, et elle m'a dit, ça répond bien. Ça, il se passe vraiment quelque chose. Et moi, je sentais vraiment, j'avais l'impression qu'elle avait plus ses doigts sur mon ventre que sur mes pieds.
Chaque zone du pied correspond à une zone, finalement, à un organe vital, ou une zone du corps, tout simplement. Et du coup, il y a une vraie réaction chez vous. Donc, c'est assez impressionnant, finalement.
Je pense que... Après, c'est pas une question de croyance. Parce que moi, j'y suis allée en ne connaissant pas du tout ce que c'était. Et j'en avais entendu parler sans plus. Mais je me suis dit, il y a ça à la ligue. Je vais voir. Et puis, si je n'adhère pas, si ça ne me plaît pas, j'y retournerai pas. Tout simplement. De toute façon, j'avais rien à perdre et puis on peut pas se faire mal.
En fait, c'est un plus. Vous avez qu'à gagner, vous ne perdez rien. Vous essayez. Si ça vous plaît pas, vous ne continuez pas. Sinon, justement, vous avez tout intérêt à continuer si ça vous est bénéfique, si ça fait résonance en vous. Vous avez parlé, Valérie, de douleurs au ventre, justement, des problèmes de digestion. Est-ce que vous avez eu d'autres effets secondaires, justement? Quels ont été vos autres effets secondaires suite au traitement? Quels ont été les traitements? Alors, je vous pose deux questions en une. Excusez-moi, ça fait peut-être beaucoup. On va parler des traitements et des effets secondaires maintenant.
Oui. Le traitement, moi, j'ai un peu tout eu dans le sens où j'ai compris, enfin, on a vu que j'étais malade parce que j'ai fait un coma dû aux tumeurs cérébrales que j'ai eues. Donc, je suis tombée dans le coma comme ça du jour au lendemain. Mais juste avant, j'avais une grosse fatigue que je ne savais pas ce que c'était. Je manquais de fer, donc je suis allée voir mon généraliste. J'avais rien au niveau des bilans sanguins qui me disaient qu'il y avait une trace de cancer. Il n'y a absolument rien. Et puis, je suis tombée du jour au lendemain... coma, donc je me suis retrouvée aux urgences. J'étais toujours pas réveillée, j'étais toujours dans le coma, et ils m'ont passé un scan, et puis ils ont vu que y avait des grosses nodules au niveau du poumon, et puis que c'était pas opérable, parce qu'en plus il y avait déjà des métastases. Donc quand il y a déjà des métastases, on ne touche pas. Sinon ça fait des ramifications, ça peut se mettre partout. Donc j'ai commencé l'immunothérapie à l'hôpital de Périgueux avec la radiothérapie cérébrale, et là ça a été sur Bordeaux parce que c'était urgent, les nodules étaient très grosses et que je pouvais pas me permettre de faire d'autres crises. Donc c'est en fin de compte, le coma a été déclaré par une grosse crise d'épilepsie alors que je ne suis pas épileptique à la base.
Oui, ça a été le facteur déclencheur.
Exactement.
Finalement, qui a alerté. Vous avez été suivi donc à Bergogne, à Bordeaux, et vous y êtes
après
toujours...
à Bergogne, là c'est l'hôpital Bordeaux Nord.
D'accord. Donc, il y a eu deux étapes, l'hôpital Bordeaux-Nord.
Polyclinique Bordeaux-Nord, où je suis toujours suivie tous les 6 mois maintenant pour voir s'il n'y a pas d'autres métastases. Et là, ils regardent exclusivement le cerveau. Sinon, c'est Périgueux, Francheville maintenant.
Et qu'est-ce qu'est l'immunothérapie, justement ? On en parle beaucoup, mais peu de savent ce que c'est réellement.
Bah, c'est une forme de... C'est comme une chimiothérapie, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires. Et on s'est aperçu, il y a une trentaine d'années, des chercheurs américains surtout, qu'au niveau des cancers des poumons, souvent, il y avait des métastases cérébrales. Le poumon correspondait...
était rattaché aux tumeurs cérébrales.
Était rattaché, voilà. Donc, c'est assez classique que, quand c'est pas pris à temps...
Que ça se développe
déjà, au niveau cérébral.
Au cérébral, d'accord.
C'est comme ça. Donc, ça marchait très, très bien. Mais bon, vu qu'on est un petit peu comme les plantes, au bout d'un moment, les traitements, le corps n'en veut plus ou ça ne fait plus effet. Il faut quelque chose de plus fort. Donc, on va passer une chimio très lourde.
Avec des effets secondaires, j'imagine.
Et là, les effets secondaires, c'était assez terrible. Parce que au bout d'un moment, pendant 6 mois, je n'ai pas eu de traitement du tout parce qu'ils étaient obligés de tout arrêter.
À cause de la lourdeur du traitement, justement.
Oui, parce que je ne supportais plus, les produits ne supportaient plus rien. Donc, du coup, j'étais mieux parce que j'avais plus tous ces effets secondaires, mais de l'autre côté, je n'étais pas soignée parce que je n'avais pas de traitement.
Oui, il y a eu une période un peu de pause dans votre parcours de soins.
Il n'y avait pas le soin, il n'y avait pas le choix. Et puis après, ils ne savaient pas du tout quoi faire avec moi. Ils se sont dit, si on ne fait rien, on va la perdre. Donc je suis allée sur Bergonier. Et Bergonier, donc, j'ai signé une décharge pour faire partie des essais thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on est un petit peu comme un cobaye. Mais je me suis dit, si moi, ils n'arrivent pas à me soigner, autant que ça serve aux autres.
Tout à fait.
Donc, mon expérience, et puis les produits qu'on m'a donnés pour me soigner. Et après, il y a un suivi qui est très, très marqué.
Très millimétré.
C'est pas n'importe quoi, mais j'ai eu un traitement ciblé après, donc médicamenteux, comme celui que j'ai maintenant qui va convaincre, mais que j'ai pas du tout supporté. Donc ça a été encore pire que la chimio. J'étais dans un état, j'étais brûlée de la tête aux pieds, mais à l'intérieur, une espèce d'inflammation sur tout le corps. C'est presque insupportable. Là, faut vraiment.
Et là, actuellement, comment vous vous sentez ? Où est-ce que vous en êtes dans votre parcours de soins ?
Moi, je vais dire, je ne peux pas mieux me sentir que comment je me sens maintenant. Après, ce que j'essaie de travailler, c'est beaucoup sur le plan mental pour essayer de recoller les morceaux que j'ai moi-même détruits, parce que je pense que la dissymétrie, le manque d'harmonie entre le corps et l'esprit fait que ça entraîne des maladies. En fin de compte, on se rend malade tout seul sans le savoir. Pour moi, c'est si on n'avait pas de problème d'asymétrie comme ça et de manque d'harmonie entre le mental et le corps, on ne serait jamais malade.
Et selon vous, quels sont, pour terminer cette interview passionnante, quels sont les piliers du bien-être au quotidien pour une personne lambda, pour justement vivre longtemps sans pathologie, selon vous, ou de la meilleure manière possible ? Est-ce qu'il y a des secrets d'hygiène de vie à tenir, ou des dimensions sur lesquelles il faut faire attention dans notre propre vie, selon vous ?
Je pense que c'est essayer de faire des choses avec plaisir, de voir les choses avec plaisir, de voir des gens qu'on a envie de voir, qu'on aime, de pas rester dans des tensions, de rester ouvert aux choses. La nature, je pense que elle est là, présente, elle est omniprésente, on en fait partie. Donc pour moi, c'est très subjectif, mais je pense que ça peut énormément aider de prendre conscience qu'on fait partie du cosmos, on fait partie des énergies de tous les organismes vivants. On n'est pas plus important que la petite fourmi qui va être dans sa colonie. Donc c'est essayer de recoller un petit peu le corps et l'esprit, la nature, la méditation. Je pense que c'est, après, ça ne correspond pas à tout le monde parce que c'est du lâcher prise.
Et oui.
Et le lâcher prise, ça s'apprend. Et on croit toujours savoir des choses ou avoir des idées, des pensées qui nous correspondent. En fin de compte, quand on fouille un peu, on se dit, mais est-ce que c'est réellement moi tout ça?
Et
est-ce
d'où
que
j'ai
réellement senti ça?
D'où l'intérêt, justement, d'apprendre à se connaître, d'être conscient de soi-même, de son corps. L'inothérapie, L'hypnothérapie, c'est une pratique que vous venez de découvrir,
oui,
et qui peut vous aider vous-même, mais tous les êtres humains, à prendre conscience de soi pour peut-être aller mieux et éviter l'apparition de pathologies. Dites-nous-en un peu plus sur cette hypnothérapie que vous pratiquez avec Henri Lefix depuis peu.
Oui, et c'est, pour moi, c'est une découverte vraiment très, très importante. Je compte continuer. J'essaie de me renseigner, de comprendre des choses pour essayer de mieux me comprendre, moi. Et ce qui me plaît là-dedans, c'est que le mental, alors c'est une forme de thérapie. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mot thérapeute, on a tendance à le voir de façon complètement fausse. C'est-à-dire qu'en grec, la racine de la thérapie, ça veut dire serviteur. C'est pas quelqu'un qui a un savoir, c'est pas quelqu'un qui en sait plus que les autres, bien sûr, c'est des gens qui ont fait des études, hein, je mets pas ça en cause. Mais, c'est travailler par une forme d'hypnose, mais pas de l'hypnose classique où il y a une emprise sur le patient. C'est une forme d'hypnose, en fin de compte, où le thérapeute, au moment où il est avec le patient, après quelques questions, en fin de compte, va travailler sur lui.
Pour éviter que les énergies l'atteignent déjà.
Il ne faut pas qu'ils viennent avec des tensions, parce qu'automatiquement, s'il y a des tensions, les tensions, simplement par les atmosphères, le patient va le ressentir, parce que c'est tout un travail qui va se faire par le patient lui-même, en étant aidé par le thérapeute, justement.
Il est guidé.
Mais c'est un travail qui se fait d'évacuer les tensions que le corps a emmagasinées. Alors, on parle beaucoup de fascia en ce moment. On a découvert depuis 2021 des choses superbes au niveau du cerveau. Et voilà, moi, j'invite tout le monde à aller voir l'émission qu'il y a sur Arte, replay sur les fascias, parce qu'on en apprend énormément de choses sur le corps et l'esprit.
Il faut moi-même que j'aille la voir. Merci Valérie pour ce reportage qui aura inévitablement du succès. Merci beaucoup pour votre présence, votre sourire et finalement toutes ces pistes qui vont permettre à beaucoup de s'équilibrer au quotidien et qui certainement inspireront plus d'un. Merci.
Oui. Et merci beaucoup, puis carpe diem, hein. Vivre au jour présent. Au revoir.